Madame Guyon, chapitre 6e. Deuxième degré de la voix passive en foi. Le torrent, ayant commencé à trouver la pente de la montagne, commence aussi le deuxième degré de la voix passive en foi. Cette âme qui était si paisible sur cette montagne s'y tenait fort en repos et ne songeait pas à en descendre. Cependant, faute de pente et de descente, ses eaux du ciel, par le séjour qu'elle faisait sur la terre, commençaient à se corrompre, car il y a aussi cette différence des eaux qui ne coulent pas et ne se déchargent pas, de celles qui coulent et se déchargent, que les premières, si ce n'est la mer ou les grands lacs qui lui ressemblent, se corrompent, et leur repos fait leur perte. Mais lorsque, étant sorties de leur source, elles ont une issue facile, plus elles coulent avec rapidité, plus aussi se conservent-elles. Vous remarquerez que, comme j'ai déjà dit de cette âme, dès que Dieu lui a donné le don de la foi passive, il lui a donné en même temps un instinct de courir pour le trouver comme son centre. Mais cette âme si infidèle, quoiqu'il se croie pleine de fidélité, étouffe par son repos cet instinct de courir et demeurerait sans avancer si Dieu ne réveillait cet instinct en lui faisant trouver la pente de la montagne, où il lui faut qu'elle se précipite presque malgré elle. Elle sent d'abord perdre son calme, qu'elle croyait posséder pour jamais. Ses eaux si tranquilles commencent à faire bruit, le tumulte se met dans ses ondes, elle court et se précipite. Mais où court-elle? Hélas, c'est à leur perte, à ce qu'elle s'imagine. Si elle pouvait vouloir quelque chose, elle voudrait se retenir et retourner à leur calme. Mais c'est une chose impossible. La pente est trouvée. Il faut se précipiter de pente en pente. Il n'est point encore ici question d'abîme ni de perte. L'eau, l'âme, paraît toujours et ne se perd point dans ce degré. Elle se brouille et se précipite. Une onde suit l'autre, et l'autre l'attrape et la choque par sa précipitation. Cette eau rencontre pourtant sur la pente de cette montagne certains lieux unis où elle prend un peu de relâche. Elle se plaît dans la clarté de ses eaux, et elle voit que ses chutes, ses courses, ce brisement de ses ondes contre les rochers n'ont servi qu'à la rendre plus pure. Elle se trouve délivrée de ses bruits et orages, et croit être déjà arrivée au lieu de repos. Et elle le croit avec d'autant plus de facilité qu'elle ne peut douter que l'état par lequel elle vient de passer ne l'ait beaucoup purifiée. Car elle se voit plus claire, et elle ne sent plus la méchante odeur que certains endroits corrompus lui faisaient sentir sur le haut de la montagne. Elle a même acquis une pente qui est un degré de connaissance de ce qu'elle est. Elle a vu par ce trouble des passions, ou plutôt des ondes, qu'elle n'était pas perdue, mais endormie. Comme lorsqu'elle était dans la pente de la montagne, pour arriver à cet endroit uni, elle croyait se perdre, comme lorsqu'elle était dans la pente de la montagne, pour arriver à cet endroit uni, elle croyait se perdre et n'avait plus d'espérance de recouvrer la paix. Aussi à présent qu'elle n'entend plus le bruit de ses ondes, qu'elle se voit couler si doucement et si agréablement sur le sable, elle oublie sa peine première et ne croit pas qu'elle doive revenir, car elle voit qu'elle a acquis plus de pureté et elle ne craint pas de se gâter. Car ici, elle n'est point arrêtée, mais elle coule si doucement et si agréablement que rien plus. Ô pauvre torrent, vous croyez avoir trouvé le repos et y être arrivé. Vous commencez à vous plaire dans vos eaux, les créatures s'y mirent et les trouvent très belles. Mais vous voilà bien surpris lorsque, en coulant si doucement sur le sable, vous rencontrez sans y penser une pente plus forte, plus longue et plus dangereuse que la première. Alors ce torrent recommence son bruit. Ce n'était qu'un bruit médiocre, et il devient insupportable. Il fait un bruit et un tintamarre plus grand qu'auparavant. Il n'y a presque plus de lit pour ce torrent, mais il tombe de rocher en rocher, il se précipite sans ordre ni raison, il effraye tout le monde de son bruit, chacun craint de l'aborder. Ô pauvre torrent, que ferez-vous? Vous entraînez tout ce que vous trouvez dans votre furie. Vous ne sentez que la pente qui vous entraîne, et vous vous croyez perdu. Non, non, ne craignez point. Vous n'êtes pas perdu, mais le degré de votre bonheur n'est pas encore arrivé. Il faudra bien d'autres bruits et d'autres pertes avant ce temps. Vous ne faites que commencer votre course. Enfin, ce torrent courant sent qu'il trouve encore le bas de la montagne et le pays uni. Il reprend son premier calme et même plus grand, et après avoir passé de longues années dans ses alternatives, suit le troisième degré, dont on remet à parler après avoir touché les dispositions à y entrer et ses premières démarches. L'âme, après avoir passé quelques années dans le lieu tranquille dont nous avons parlé, qu'elle croyait posséder pour toujours et avoir acquis les vertus, cela lui semblait, dans toute leur étendue, croyant toutes ses passions mortes, et lorsque elle pensait jouir, avec plus d'assurance, d'un bonheur qu'elle croyait posséder sans crainte de le perdre, elle est toute étonnée qu'au lieu de monter plus haut, ou du moins de demeurer dans un état égal, elle rencontre sans y penser le penchant de la montagne. Elle est étonnée qu'elle commence d'avoir de la pente pour les choses qu'elle avait quittées. Elle voit tout à coup ce calme si grand se troubler. Les distractions viennent en foule, elles se battent et se précipitent, l'une l'autre. L'âme ne trouve que pierre en son chemin, que sécheresse, qu'aridité. Le dégoût se met dans ses prières. Ses passions, qu'elle croyait mortes et qui n'étaient qu'assoupies, se réveillent. Elle est tout étonnée de ce changement. Elle voudrait ou remonter d'où elle descend, ou du moins s'arrêter là. Mais il n'y a pas moyen. La pente de la montagne est trouvée. Il faut que cette âme tombe. Elle fait de son mieux pour se relever de ses chutes. Elle fait ce qu'elle peut pour se retenir et se raccrocher à quelque dévotion. Elle redouble ses pénitences. Elle se fait effort pour regoûter sa première paix. Elle cherche la solitude pour voir si elle la trouvera. Mais son travail est inutile. Elle voit que c'est sa faute. Elle se résigne à souffrir l'abjection qui lui en revient. Déteste le péché. Elle voudrait ajuster les choses, mais il n'y a pas moyen. Il faut que ce torrent ait son cours. Il entraîne tout ce qu'on lui oppose. L'âme, qui voit qu'elle ne trouve plus en Dieu de soutien, va cherchant si elle en trouvera dans la créature. Mais elle n'en trouvera point, et son infidélité ne sert qu'à l'effrayer davantage. Enfin, cette pauvre âme, ne sachant que faire, pleurant partout la perte de son bien-aimé, elle est toute étonnée qu'il se présente de nouveau à elle. Cette vue charme d'abord cette pauvre âme qui croyait l'avoir perdue pour toujours. Elle se trouve d'autant plus fortunée qu'elle s'aperçoit qu'il a apporté avec lui de nouveaux biens, une pureté nouvelle, une plus grande défiance d'elle-même. Elle n'a plus envie, comme la première fois, de s'arrêter. Elle court toujours, mais c'est paisiblement, doucement, et elle craint encore de troubler sa paix. Elle appréhende de perdre de nouveau le trésor, qui lui est d'autant plus précieux que sa perte lui avait été plus sensible. Elle craint de lui déplaire, et qu'il ne s'en aille encore une fois. Elle tâche de lui être plus fidèle, et de ne pas faire la fin des moyens. Cependant, ce repos l'enlève, la ravit, la rend plus paresseuse. Elle ne peut s'empêcher de le goûter, et elle voudrait toujours être seule. Elle a encore l'avidité ou la gourmandise spirituelle. L'arracher de la solitude ou de l'oraison, c'est lui arracher l'âme. Elle est encore plus propriétaire, ce qu'elle goûte étant plus délicat et son goût étant devenu plus fin par la peine qu'elle a souffert. Il semble qu'elle soit dans un nouveau repos. Elle va doucement, lorsque tout d'un coup, elle rencontre une nouvelle pente, plus forte et plus longue que la première. Elle entre tout d'un coup dans une nouvelle surprise. Elle veut se retenir, mais inutilement. Il faut tomber, il faut courir par les rochers, de rocher en rocher. Elle est étonnée qu'elle perd le goût de la prière et de l'oraison. Il faut qu'elle se fasse des violences extrêmes pour y rester. Elle ne trouve que mort à chaque pas. Ce qui la vivifiait autrefois est ce qui cause la mort. Elle ne sent plus de paix, mais un trouble et une agitation plus fortes que jamais, tant du côté des passions qui se réveillent d'autant plus de force qu'elle paraissait plus éteinte, plus éteinte. que du côté des croix qui se redoublent au dehors. L'âme se trouve plus faible pour les porter. Elle s'arme de patience, elle pleure, elle gémit, elle s'afflige, elle se plaint à son époux de ce qu'il l'a ainsi abandonnée. Mais ses plaintes ne sont pas écoutées. Plus elle s'afflige, plus elle se plaint de nouveau. Tout lui devient mort. Elle trouve tout ce qui est bon difficile. Elle sent pour le mal une pente qui l'entraîne. Cependant, elle ne se peut reposer dans la créature, ayant goûté au Créateur. Elle court encore plus fort, et plus les rochers et les obstacles sont forts et s'opposent à son passage, plus elle s'opiniâtre à redoubler sa course. Elle est comme la colombe de l'arche qui, ne trouvant pas sur la terre de quoi reposer ses pieds, est obligée de retourner. Mais, hélas, que fera cette pauvre colombe lorsqu'elle veut retourner en l'arche? Noé ne lui tend sa main pour la reprendre. Elle ne fait que voltiger autour de l'arche, cherchant du repos sans en pouvoir trouver. Elle grommelle autour de cette arche jusqu'à ce que le divin Noé, ayant compassion de sa persévérance et de ses gémissements, ouvre enfin la porte et la reçoive agréablement. Ô invention toute admirable et toute amoureuse de la bonté de Dieu, il n'amuse ainsi l'âme que pour la faire courir avec plus de vitesse. Il se cache pour se faire chercher, il s'enfuit pour faire courir, il laisse tomber en apparence pour avoir le plaisir de soutenir et de relever. Ô âme forte et vigoureuse qui n'avait jamais éprouvé ces jeux d'amour, ces jalousies apparentes, ces fuites, aimables à l'âme qui les a passées, mais terribles à celle qui les expérimente. Vous, dis-je, qui ne savez ce que c'est que les fuites d'amour parce que vous êtes enivré d'une possession continuelle de votre bien-aimé, ou que, s'il se cache, c'est pour si peu que vous ne sauriez juger par une absence longue et ennuyeuse du bonheur de sa présence. Vous n'avez jamais éprouvé votre faiblesse et le besoin que vous avez de son secours. Mais pour ces pauvres âmes ainsi délaissées, elles commencent à ne plus s'appuyer sur elles et à ne s'appuyer que sur leur bien-aimé. Les rigueurs de ce bien-aimé leur ont rendu ces douceurs plus souhaitables. Ces âmes font souvent des fautes à cause de leur affaiblissement et que leurs sens ne trouvent plus d'appui, et ces fautes les rendent si honteuses qu'elles se cacheraient elles-mêmes, si elles pouvaient, de leur bien-aimé. Hélas, dans l'horrible confusion où elles se trouvent, il leur montre sa face pour un moment. Il les touche de son spectre, comme un autre Assuérus, afin qu'elles ne meurent pas. Mais ses caresses, si courtes et si tendres, ne servent qu'à augmenter leur confusion de lui avoir déplu. D'autres fois, il leur fait sentir, par ses rigueurs, combien leur infidélité lui déplaît. Ô Dieu, si ces âmes pouvaient devenir en poudre, elles y deviendraient. Elles se mettent en sans posture pour réparer l'injure faite à Dieu, et si par quelque légère promptitude qu'elles regardent comme des crimes, elles ont offensé le prochain, quelle satisfaction ne lui font-elles pas? Elles portent cela si loin qu'elles s'en croient coupables, comme d'injures qu'elles lui auraient faites, et lui en demandent pardon. Mais c'est grand de pitié de voir l'état de cette pauvre âme qui a pu chasser son bien-aimé. Elle fait tous ses efforts pour se corriger. Elle ne cesse de courir après lui, mais plus elle court, et plus il fuit. Et s'il s'arrête, ce n'est que pour des moments, afin de lui faire reprendre haleine. Ensuite, elle rencontre un peu de repos, mais plus elle avance, plus ce repos devient court et délicat. Elle voit bien, cette pauvre âme, qu'il faut mourir, car elle ne trouve plus de vie en rien. Tout lui devient mort et croit, l'oraison, la lecture, la conversation, tout est mort. Plus de goût à rien, ni aux pratiques des vertus, ni au secours des malades, ni à tout le reste qui rend une vie vertueuse. Elle perd tout cela, ou plutôt elle y meurt, le faisant avec tant de peine et de dégoût que ce lui est une mort. Enfin, après avoir bien combattu, mais inutilement, après une longue suite de peines et de repos, de mort et de vie, elle commence à connaître l'abus qu'il a fait des grâces de Dieu et combien cet état de mort lui est plus avantageux que celui de vie, car comme elle voit son bien-aimé revenir, que plus elle avance et plus elle le possède purement, et que l'état qui précède la jouissance est une purgation pour elle, elle s'abandonne de bon cœur à la mort et aux allées et venues de son bien-aimé, lui donnant toute liberté d'aller et de venir comme il lui plaît. Elle connaît alors que de le vouloir retenir, ce serait une propriété défectueuse. Elle est instruite de ce dont elle est capable. Elle perd peu à peu sa propre jouissance et est préparée par là à un état nouveau. Mais avant que d'en parler, il faut dire que plus l'âme avance, plus aussi ses jouissances sont courtes, simples et pures, et plus ses privations sont longues, rudes et angoisseuses, et cela jusqu'à ce que l'âme, ait perdu toute jouissance pour ne la plus retrouver jamais. Et c'est ici le troisième degré que l'on appelle perte, sépulture et pourriture. Celui-là, le second, se termine à la mort et ne passe pas outre.